Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Appel du pape François pour que l'Irak préserve son unité nationale et évite la guerre. Le dialogue est la seule solution. Nous parlerons du commerce des armes avec un représentant du Secours catholique. Ce dimanche matin, le pontife a célébré la messe de la fête des saints Pierre et Paul et conféré le pallium à 24 nouveaux archevêques métropolitains. Dans son homélie, il dénonce le clergé mondain qui recherche la protection des puissants de ce monde. Dans un entretien quotidien italien, François fustige le fléau de la corruption, mais aussi la décadence morale. Dans la seconde partie de ce magazine, l'invité de Sœur Catherine Aubin, le recteur du séminaire français de Rome, le père Sylvain Bataille. Lors de l'Angélus ce dimanche midi, place Saint-Pierre, le pape s'est donc inquiété pour la situation en Irak. Devant les dizaines de milliers de fidèles rassemblés sous les fenêtres du palais apostolique, le pape a appelé les autorités politiques de ce pays, en proie à une violente insurrection islamiste, à préserver l'unité nationale et à éviter la guerre.
Les notizie che giungono dall'Iraq sono purtroppo molto dolorose.
Les nouvelles qui nous parviennent d'Irak sont malheureusement très douloureuses. Je m'unis aux évêques de ce pays dans leur appel aux gouvernants pour que par le dialogue l'unité nationale puisse être préservée et qu'on puisse éviter la guerre. Je suis proche des milliers de familles, surtout chrétiennes, qui ont dû abandonner leur maison et qui sont en grave danger. La violence engendre la violence. Le dialogue est l'unique chemin vers la paix.
La violenza genera altra violenza. Il dialogo è la unica vita per la pace.
En conclusion, le pape a confié le peuple irakien éprouvé à la Vierge Marie et a invité la foule à prier un Ave Maria. Réunis en synode à Erbil, capitale du Kurdistan irakien du 24 au 28 juin, les évêques de l'église chaldéenne, rite majoritaire chez les chrétiens du pays, avaient souhaité la formation rapide d'un gouvernement d'unité nationale. Après la Syrie, l'Irak sombre donc à son tour dans une violence meurtrière. Ces conflits menacent aujourd'hui de déstabiliser tout le Moyen-Orient. Pour y mettre un terme, le Secours catholique Caritas France s'est associé au message de paix de l'Église et a lancé fin juin une pétition pour demander au plus vite la ratification du traité sur le commerce des armes. Nous avons interrogé à ce sujet Sébastien Deschamps. Il est responsable du pôle urgence au Secours catholique.
Vu les appels pressants et renouvelés du pape François, quant à une prise en compte aussi de cette dimension-là de la vente des armes, quand il a dit en Jordanie lors de sa visite « Nous voulons tous la paix, mais on n'arrêtera pas cette guerre si on n'arrête pas aussi les livraisons d'armes. » Et il faut se poser la question de savoir à qui ça profite et de mettre un terme à ces trafics finalement, parce que énormément de ce commerce d'armes là, se passe en dehors de tous les circuits légaux. Donc on a trouvé opportun et important et urgent de relancer le débat autour de ce traité sur le commerce des armes, qui a été adopté aux Nations Unies l'année dernière grâce à un gros effort de plaidoyer de la société civile, notamment du réseau Caritas, mais qui n'a toujours pas été ratifié par les 50 pays qui feraient qu'il puisse entrer en vigueur.
Et qu'est-ce que permettrait justement ce traité s'il était adopté ?
Devenir un instrument parmi d'autres efficace, un instrument pas suffisant probablement, mais malgré tout un instrument au moins de droit international pour à tout le moins contrôler le commerce des armes, en particulier à destination de cette région. Il ne s'agit pas d'interdire complètement la vente de toutes les armes à tous les acteurs. On a besoin d'une armée française pour intervenir ici et là. Mais que des groupes armés puissent, et on voit aujourd'hui à quel point ces groupes armés, comme l'État islamique en Irak et au Levant, là, disposent d'armements mais absolument invraisemblables, et ça se passe en dehors de tous les canaux légaux. Donc ça pourrait permettre, nous espérons, à des acteurs, qu'ils soient étatiques ou associatifs de la société civile, d'intervenir et de questionner l'origine de ces armes et si possible de mettre fin à ce qu'il faut bien appeler des trafics en fait.
Et quel pays souhaitez-vous sensibiliser en particulier ?
On voudrait profiter en fait de la mise en place du nouveau Parlement européen qui va tenir sa première session entre le 1er et le 3 juillet. On se dit que c'est une opportunité, on va dire, symbolique d'alerter l'opinion publique en général, européenne en particulier, en disant voilà, l'Europe pourrait jouer un rôle là de modèle, on va dire, ça correspond tellement aux valeurs européennes, quoi, de coexistence pacifique. L'Europe s'est quand même construite sur une page tournée, sur un passé de guerre, etc. Donc voilà, ce serait une occasion pour un nouveau Parlement européen, dans les toutes premières heures de sa prise de fonction, de donner un signal au reste de la communauté internationale en disant « le contrôle des armes, ça fait partie de la construction de la paix et d'un monde différent pour demain ».
Et en ce dimanche de la solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul, le pape François a remis le pallium à 24 nouveaux archevêques métropolitains du monde entier. Parmi eux, 5 provenaient d'Afrique, 6 d'Asie, 7 d'Europe et 6 des Amériques. Le pallium et cette bande d'étoffe de laine blanche qui, posée sur les épaules, représente la brebis portée par le berger, le Christ, et donc symbole de la charge pastorale de celui qui le porte. L'évêque de Rome la confère aux archevêques métropolitains et aux primats comme symbole de leur juridiction en communion avec le siège de Pierre. Au moment de l'homélie, le pape a adressé quelques mots à la délégation du patriarcat de Constantinople, à Rome ces jours-ci, comme chaque année, pour cette solennité des saints Pierre et Paul. Une délégation menée cette année par le métropolite Jean de Pergame, Zizioulas, déjà reçu samedi par le pape au Vatican. « Prions le Seigneur », a déclaré François, « pour que cette visite puisse renforcer nos liens fraternels dans le chemin vers la pleine communion entre les deux églises sœurs, une communion tellement désirée. » Et pour son homélie, le pape a en quelque sorte offert quelques conseils aux nouveaux archevêques, Manuela Fidji.
Que le Seigneur nous libère de toutes les peurs et de toutes les chaînes, afin que nous puissions être vraiment libres, déclarait le pape en commentant les lectures du jour, évoquant le problème de la peur et des refuges pastoraux. Nous, chers frères évêques, avons-nous peur? Et de quoi avons-nous peur? Et si nous avons peur, quel refuge cherchons-nous dans notre vie pastorale pour nous protéger?
Cerchiamo forse l'appoggio di quelli che hanno potere in questo mondo.
Nous cherchons peut-être l'appui de ceux qui détiennent le pouvoir dans ce monde, ou nous recherchons les gratifications et les reconnaissances si on a alors l'impression d'être en sécurité.
Et lì ci sembra di stare sicuri.
Chers frères évêques, où devons-nous chercher la sécurité? Le pape répondait aussitôt à cette question en soulignant que les témoignages de l'apôtre Pierre nous rappellent que notre vrai refuge est la confiance en Dieu. Elle éloigne toutes les peurs et nous rend libres de tous les esclavages et de toutes les tentations mondaines. L'expérience de Saint-Pierre constitue un message important. Nous ne devons pas perdre de temps en questionnement ou en bavardage inutile. Nous ne devons pas nous arrêter aux choses secondaires, mais aller à l'essentiel. Jésus nous dit « Suis-moi malgré les difficultés, suis-moi dans l'annonce de l'Évangile, suis-moi dans le témoignage d'une vie qui corresponde au don de la grâce du baptême et de l'ordination. »
Dans un long entretien au quotidien italien Il Messaggero, le pape a dénoncé ce dimanche le fléau de la corruption, un sujet qui, comme la dénonciation des prêtres mondains, lui tient particulièrement à cœur. Il est difficile de rester honnête en politique. Parfois, c'est comme si certaines personnes étaient phagocytées par un phénomène endémique à divers niveaux, transversal. Aujourd'hui, le problème, c'est que la politique est discréditée, dévastée par la corruption, le phénomène des pots de vin. La corruption, malheureusement, est un phénomène mondial. Il y a même des chefs d'État qui sont en prison pour cela, a ajouté le pape. Et toujours, selon lui, nous vivons un changement d'époque qui alimente la décadence morale, non seulement en politique, mais aussi dans la sphère financière ou sociale. Le pape a également évoqué les abus subis par les enfants, ceux employés pour des travaux manuels parce qu'ils ont des mains plus petites, et ceux qui sont victimes d'abus sexuels. Cela, a-t-il confessé, me fait énormément souffrir. Un chrétien sans mari est un orphelin, mais un chrétien sans l'Église est également un orphelin. Un chrétien a besoin de ses deux femmes, de ses deux mères, de ses deux vierges, l'Église et Marie. Voilà ce que déclarait samedi soir le pape François vers 19h, près de la grotte de Lourdes dans les jardins du Vatican, à un groupe de jeunes du diocèse de Rome en recherche vocationnelle. Le pape François leur a également parlé du sens du définitif. Pour nous, c'est important parce que nous vivons dans une culture du provisoire, a-t-il dit. Oui pour ceci ou pour cela, mais pour un moment seulement. Tu te maries? Oui, oui, mais tant que dure l'amour. Après, c'est chacun chez soi à nouveau. Un jeune homme me racontait, un évêque m'a dit un jour, je voudrais devenir prêtre, mais seulement pour 10 ans. Le règne du provisoire donc, nous avons peur des choses définitives. Et pour choisir une vocation, ajoutait le pape, que ce soit le mariage, la vie consacrée, le sacerdoce, on doit choisir dans une perspective du définitif, alors que nous vivons dans une culture du provisoire. C'est là un aspect de la culture de notre époque que nous devons affronter et vaincre. Pour la seconde partie de ce magazine, place à présent à l'invité du dimanche de Sœur Catherine Aubin. Il n'est autre que le recteur du séminaire français de Rome, le père Sylvain Bataille, qui terminera sa charge dans quelques semaines. Il est ordonné prêtre en mars 89 pour le diocèse de Beauvais. Membre de la société Jean-Marie Vianney depuis sa fondation en 1990, il devient supérieur du séminaire d'Ars en 2000. En 2009, il est nommé recteur du séminaire français de Rome. Rencontré par sœur Catherine Aubin, le père Sylvain Bataille nous fait partager les joies et les défis de son ministère de formateur de séminaristes.
Père Sylvain Bataille, cela fait 14 ans que vous êtes dans la formation des séminaristes. Auparavant, vous avez aussi, et vous faites toujours partie, de la société Jean-Marie Vianney. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette société, qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Voilà, alors je suis prêtre diocésain du diocèse de Beauvais. Mais commençant mon ministère, je me suis vite aperçu que j'avais besoin d'être aidé pour être fidèle aux engagements de mon sacerdoce. Et donc j'avais besoin de frères pour partager ensemble la prière, mais aussi pour partager une vie commune, fraternelle, et aussi pour partager la mission. Et donc voilà, c'est une association de prêtres pour nous aider à vivre simplement notre ministère. L'objectif, c'est quand même de pouvoir vivre ensemble sous un même toit pour avoir une mission commune au service d'un ensemble plus vaste de missionnaires. Et puis avec des rassemblements par région et puis nationaux régulièrement.
Vous venez du diocèse de l'Oise et vous êtes retrouvé dans le diocèse d'Ars. C'est par cette société que vous avez changé de diocèse ?
Alors en fait, je n'ai pas changé de diocèse. Je suis prêtre du diocèse de Beauvais où j'ai exercé pendant 11 ans mon ministère en paroisse. Ensuite, il m'a été demandé de m'occuper du séminaire de la société qui se trouve à Ars. Et c'est à ce titre-là que j'ai vécu 9 ans. Au service de la formation à Ars.
Alors, quand on arrive comme ça à la formation des séminaristes, quelle est la première découverte que l'on fait ?
La première découverte, c'est un émerveillement devant la vocation, devant c'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui choisit. Et donc, quand on accueille quelqu'un qui pense à devenir prêtre, on l'invite à, voilà, qu'est-ce qui habite ton cœur ? Mets-toi devant le Seigneur pour entendre et approfondir cet appel, et puis ensuite, quelle réponse tu veux donner ? Il y a une espèce d'élan quand on répond à l'appel du Seigneur. Et moi, je vois avec les séminaristes m'ont beaucoup dynamisé depuis 14 ans.
Vous êtes formateur, donc vous avez réfléchi aux critères de discernement de la vocation. Est-ce qu'il y a des critères objectifs ?
Le premier critère, c'est quand même cet appel du Seigneur. C'est-à-dire de découvrir qu'est-ce qui habite mon cœur, le cœur profond, de voir comment est-ce qu'on y répond. Et donc le deuxième critère, c'est celui de la générosité. Donc ça, c'est un critère assez objectif parce que ça va être la manière dont on s'engage dans la vie de prière, la manière dont on s'engage dans les études, la manière dont on s'engage aussi dans la vie communautaire. Et puis après, il y a d'autres critères. Il y a le critère de l'équilibre humain et ça suppose une qualité d'écoute, une qualité d'accompagnement, une qualité aussi de discernement, c'est-à-dire d'avoir le sens du réel. Et ça signifie une capacité à bien discerner. Voilà, on accueille quelqu'un quelques minutes. Il y a des fois, il vaut mieux rien dire que de dire des paroles qui pourraient être fausses. Donc voilà, ce critère de discernement qui est un critère important. Alors, nous, on a accompagné, on a aidé chacun à donner le meilleur de lui-même, mais voilà, chacun est libre de sa vie. Alors, c'est vrai que pendant le temps de séminaire, et puis surtout quand j'étais Ars, je les accueillais au tout début. Donc, l'entrée au séminaire jusqu'à l'ordination, j'ai vu ces progressions. Donc, il y a un chemin fantastique qui se fait. C'est vrai que c'est assez exigeant, la vie de séminaire. Et en même temps, chacun évolue à son rythme. Eh bien, les séminaristes, on a à les respecter. Puis une fois qu'ils sont ordonnés prêtres, il reste encore du chemin à faire. Et puis moi, ça fait 25 ans que je suis prêtre, j'ai encore beaucoup de chemin à faire.
Le pape François insiste sur différents points. Il a insisté l'année dernière, lors des Journées mondiales de la jeunesse, sur le fait de cultiver la rencontre, la culture de la rencontre au cours de la formation. Qu'en pensez-vous ?
C'est vrai que c'est un élément très important du ministère du prêtre. Il doit sortir, le pape nous l'a beaucoup redit, il doit aller vers les autres. Et puis, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est à l'époque de la nouvelle évangélisation, on s'aperçoit qu'il y a besoin de réannoncer le Christ qui n'est plus connu. Le pape nous donne un bel élan. Et puis, en même temps, chacun le fait avec ce qu'il est. Il y a un mouvement général qui est pour tous. Ensuite, il y a bien des manières de le vivre.
Et dans cette culture de la rencontre, vous qui êtes formateur, Père Sylvain Bataille, est-ce qu'il y a des critères, par exemple, d'écoute ?
Alors, il y a deux niveaux de formation. Il y a un niveau de fond qui est vraiment la structuration de la personne, de l'aider à se structurer, à se développer et à correspondre à sa vocation profonde. Ce qui fait que l'écoute, c'est d'abord une attitude du cœur qui se travaille dans la prière, qui se travaille dans l'ouverture aux autres. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de techniques pastorales, de techniques d'écoute, qui arrivent plutôt soit en fin de formation, soit en début de ministère.
Et vous, Père Sylvain Bataille, vous avez eu un, un cheminement linéaire. Vous avez senti l'appel du Seigneur très vite et vous y avez répondu de quelle manière ?
J'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne. J'ai perçu petit cet appel, mais je voulais me marier. Et puis, en classe de seconde, j'ai fait une expérience spirituelle un peu forte et j'ai découvert que le Seigneur pouvait remplir ma vie, pouvait combler ma vie. Et donc, le célibat n'était plus un obstacle, mais au contraire, une grâce pour pouvoir vraiment se donner au Seigneur et se consacrer tout entier, puisque c'était à cela que j'étais appelé. Et ce qui fait que, comme l'appel était clair dans mon cœur, eh bien, je suis rentré au séminaire juste après le bac.
Et l'autre insistance du pape François, c'est la joie. Il a insisté beaucoup le Jeudi Saint sur la joie, la consolation, la tendresse et l'allégresse sacerdotale.
Je crois que la joie, c'est le résultat d'une vie intérieure et d'un don de soi. Vivant une vraie vie spirituelle, une vie communautaire forte. Dans un séminaire, il y a une vie fraternelle très importante. On est ensemble, en plus, quand ils sont à Rome. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois ou 4 mois sans rentrer chez eux. Et donc, bon, voilà, ça suppose des liens forts. Et puis aussi, la joie de se donner dans les études. Je pense que si on est bien dans sa vocation, si on est bien sur son chemin, avec cette espèce de dynamisme intérieur que nous donne l'Évangile et que le pape nous rappelle avec beaucoup de force. Et je pense que une communauté de séminaire, c'est quand même une communauté vraiment joyeuse.
Alors, Père Sylvain Bataille, cela fait plus de 5 ans que vous êtes à Rome. Vous avez connu Benoît XVI, vous avez connu la renonciation du pape Benoît XVI et l'élection du pape François. Comment avez-vous vécu cela au sein du séminaire français ?
Comme un beau temps de grâce. On avait beaucoup reçu de Benoît XVI, entre autres à travers l'année sacerdotale où il avait parlé du prêtre et de la grandeur de sa vocation. Il y avait un côté grand-père, une espèce de proximité simple que nous avions avec lui. Et puis l'accueil d'un nouveau pape qui apporte autre chose. C'est vraiment l'expérience de la vocation, cette diversité des vocations. Le Seigneur donne à son Église différentes personnes, une espèce de grande complémentarité.
La vocation, Père Sylvain Bataille, quelle forme de vocation y a-t-il ?
Alors la vocation, je crois vraiment que c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu qui est inscrit dans le cœur profond. Et découvrir sa vocation, c'est descendre en soi pour savoir mais pourquoi est-ce que je suis fait ? Alors la vocation naturelle, c'est celle au mariage, mais le Seigneur en choisit certains pour être tout à lui. Et donc il s'agit de découvrir cet appel intérieur. Et puis ensuite, un appel qui s'adresse à la liberté. Jésus choisit qui il veut, nous dit l'Évangile. Et donc, j'ai vu des garçons qui avaient toutes les qualités pour être prêtres, mais ils n'étaient pas appelés. C'est Jésus qui choisit. Et donc, vraiment, la vocation, c'est ce choix de Dieu, mais sa vocation, c'est la réponse que chacun fait.
À l'intérieur du célibat, quelle vocation ?
La vocation, il y a différents types de célibat. Il y a un célibat d'attente, qui est le célibat des jeunes. Voilà, un enfant, il n'est pas encore capable d'orienter sa vie et de se donner de manière définitive. Et puis, ensuite, il y a un célibat consacré, c'est-à-dire le Seigneur appelle et on se donne à lui. Et c'est la vocation de prêtre ou la vocation religieuse. Et la troisième, c'est un célibat de fait, c'est-à-dire on peut avancer dans la vie sans être marié, sans être consacré à Dieu. On peut le concevoir comme célibat d'attente, il faut que j'arrive à me marier. Ou on peut dire, c'est aussi ma situation. Ce qui fait qu'une vie est réussie, c'est si elle est donnée. Et elle peut être donnée dans le mariage. Et on peut aussi vivre le mariage de manière très égoïste. Elle peut être donnée dans la vie consacrée. Et ce n'est pas toujours évident non plus. Et l'égoïsme aussi, on sait qu'il peut être bien présent dans chacune de nos vies, et d'abord dans la mienne. Et puis, elle peut être aussi donnée dans la société, dans une certaine forme de... Il n'y a pas d'engagement ni dans le mariage, ni comme consacré, mais on peut se donner aux autres. Et la question de notre vie, ce n'est pas tant de savoir si on est marié ou célibataire. La question de notre vie, c'est de savoir quel est son dynamisme profond. Est-ce qu'on est donné ? Et voilà, est-ce qu'on vit pour les autres ou est-ce qu'on vit pour soi ? Est-ce qu'on vit avec le Seigneur pour les autres ? Alors là, c'est la joie. Ou est-ce qu'on vit pour soi ? Là, c'est la tristesse. Donc, la vocation est toujours en vue de la mission. Et mûrir dans sa vocation, c'est découvrir... qu'elle n'est pas pour moi, elle est pour les autres, et c'est comme ça que je vais me réaliser.
Merci Père Sylvain Bataille.
Merci à vous.
Ainsi prend fin ce magazine. Retrouvez-nous sur notre site www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, où que vous soyez.